Radio Kapi. Oh, Kapi.
La RDC se range aussi dans le concert des nations en matière de vaccination contre Covid-19. 1,7 million de doses de vaccins sont déjà disponibles depuis mardi. Ce premier lot sera complété d'un autre dans les prochains jours. Insécurité, tuerie puis colère de la population. Ça fait aussi actualité dans le village Mambelenga en territoire d'Irumu, province de l'Ituri. 6 personnes ont été tuées, nous vous en parlons dans ce journal. En fin de cette édition, Abdourahmane Ganda, chef des bureaux intérimaires de la MONUSCO à Beni, Boutembo et Lubero, qui est notre invité, nous parlera des efforts en cours pour sécuriser cette partie du pays. Choisir Radio Okapi pour vous informer, c'est se mettre à jour par rapport à l'évolution du pays sous ses différentes facettes. Restez toujours branchés, fidèles auditeurs, bienvenue, bonjour à toutes et à tous. La vaccination contre Covid-19 commence la semaine prochaine en RDC. C'est le ministre de la Santé publique qui l'a annoncé ce mercredi 3 mars lors de la remise officielle des premières doses de vaccins au dépôt des vaccins et d'autres produits médicaux à Kinkolé, dans la périphérie est de la ville de Kinshasa. Ceci 24 heures après l'arrivée mardi de 1,7 million de doses du vaccin AstraZeneca à l'aéroport international de Ndjili. Expédié par l'intermédiaire de COVAX, c'est le fruit d'un partenariat entre la coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies CEPI, Gavi, l'UNICEF et l'OMS. Selon un communiqué conjoint publié ce mercredi par le gouvernement congolais et tous ses partenaires, cette livraison fait partie d'une première vague d'arrivée qui se poursuivra dans les jours et les semaines à venir. D'autres détails avec vous, Alain Irung.
D'après ce communiqué conjoint, la RDC s'est prononcée pour l'utilisation du vaccin AstraZeneca qui répond aux conditions de conservation existantes dans le pays, c'est-à-dire entre 2 et 8 degrés Celsius. Un plan de déploiement du vaccin contre la COVID-19 en RDC a été validé par le pays et approuvé par l'initiative COVAX. Ce dernier prévoit, sur la base de l'analyse des données épidémiologiques et des orientations de l'OMS, la vaccination de 20% de la population. Il s'agit notamment du personnel de santé qui représente 1% de la population, des personnes âgées de plus de 55 ans 6% et des personnes souffrant des comorbidités, soit 13%. La RDC est parmi les premiers pays d'Afrique à recevoir ces vaccins. La vaccination nous permettra de protéger et sauver des vies. Nous devons encourager la population cible à se faire vacciner, a déclaré le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo. C'est en décembre 2020 que le gouvernement de la RDC avait introduit sa demande de vaccin contre la COVID-19. Le ministère de la Santé, par l'entremise du programme élargi de vaccination PEV, assurera les activités de vaccination contre la COVID-19 en site fixe sur l'ensemble du territoire national. Selon toujours le communiqué conjoint, la première phase d'introduction du vaccin pour l'année 2021 ciblera les 4 provinces de la RDC les plus touchées par la pandémie, à savoir Kinshasa, le Nord Kivu, le Congo central et le Haut-Katanga. Notez que la RDC attend au total 6 millions de doses de vaccins. Souligne le communiqué.
Recherche de la paix, insécurité, nous en parlons dans cette édition. À Ituri, 6 personnes ont été tuées mardi au cours d'une attaque des rebelles des ADF au village Mambelenga, en chefferie de Walese Vonkotu, dans le territoire d'Irumu. Parmi les victimes, 2 rebelles de ce groupe armé ont été lynchés par une foule en colère. La société civile locale déplore l'inefficacité des forces de défense pour mettre fin aux tueries des civils par ces rebelles qui ont multiplié leurs attaques dans cette zone. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Cette énième incursion des rebelles ADF a eu lieu aux environs des 14 heures locales au marché de Mambelenga qui a été envahi par ces rebelles dont certains étaient en cagoule. Ces hommes armés ont tiré plusieurs coups de feu créant ainsi une débandade totale au marché et dans cette localité. Les marchands couraient dans tous les sens pour se sauver en abandonnant leurs marchandises au marché. Le président de l'association des étudiants et élèves ressortissants d'Oicha et Irumu rapporte que 3 civils ont été tués par ces ADF qui ont découpé les corps des victimes. 3 rebelles ont été également appréhendés par les habitants en colère. Ils ont été lynchés et leurs armes récupérées, affirme le coordonnateur de l'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH. Ces hommes armés ont emporté plusieurs marchandises qui ont été abandonnées au marché. Des sources locales dans la région condamnent l'attitude des forces loyalistes qui sont intervenues en retard. Pour rappel, c'est la 4e attaque des rebelles ADF depuis le début de cette année dans la chefferie de Walese Vonkutu. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Toujours en rapport avec l'insécurité dans la partie est de la RDC, c'est depuis plus de 3 mois maintenant que les rebelles ADF ont intensifié leurs attaques dans le secteur de Rouenzori en territoire de Béni. Selon les sources militaires, c'est suite à leur mobilité dans leur mode opératoire de guerre asymétrique. Comment comprendre leur positionnement? C'est Kombi Katondolo nous en dit plus.
D'après les sources militaires que nous avons rencontrées, ils expliquent la mobilité des ADF du fait d'avoir perdu plusieurs de leurs anciens bastions comme Kididiwe, Mapoubou, Lahé et bien d'autres. Mais selon certains analystes, ils avancent la thèse d'adaptation de ce mouvement et de son mode opératoire de guerre asymétrique pour détourner les lignes de front des FARDC et s'attaquer aux populations civiles. Selon toujours notre source, il s'y est de signaler que ce mouvement aurait encore des camps de formation. C'est le cas de la vallée des Mwalika qui reçoit de nouvelles recrues et les dépendants des combattants. Ceux-ci seraient ensuite divisés dans des petits groupes pour opérer dans différents milieux. Signalons que le lundi dernier, les FARDC ont annoncé avoir récupéré un autre camp des ADF qui est situé au confluent de la rivière Semuliki et la rivière Lusulubi dans le secteur du Rwenzori. Beni, c'est Kombi Katondolo, Radio Okapi.
Parlons à présent de ce cri du pouvoir traditionnel dans la province du Tanganyika. Les chefs coutumiers du territoire des Nyunzu appellent les autorités civiles et militaires à procéder à l'arrestation du seigneur des guerres Nyumbaisha de la communauté Toa. Pour les chefs traditionnels, aucun projet de développement rural ne sera entrepris tant que l'activisme des Nyumbaisha et ses hommes reste présent dans la zone. Les villages sont insécurisés et les morts déplorés. L'agriculture tourne au ralenti et l'économie de toute la zone mise à genoux à cause de l'activisme de la milice Toa. L'administrateur du territoire indique être optimiste quant au travail que réalise l'armée dans le territoire. François-Xavier Mibé revient de la zone.
C'est à la fin des travaux de l'atelier sur la bonne gouvernance sécuritaire participative que les chefs coutumiers ont lancé cet appel à l'arrestation du seigneur de guerre Nyumbaisha. Du chef Muhuya au chef Ngoy, le son reste le même. Nous sollicitons l'arrestation de leur leader Nyumbaisha pour retourner dans nos villages. Un secours du gouvernement provincial, des partenaires comme la MONUSCO et des autorités nationales est d'une importance pour la paix qui permettra de cultiver la terre et le retour des enfants à l'école. Du côté de l'administration publique, l'autorité territoriale, l'administrateur, Gaspard Lugongo Kalunga.
Et ça, c'est comme dans les domaines sécurité, il n'y a que le commandant FARDC qui connaît ses stratégies, tout ce qu'il va faire. Nous allons côté nord. Là-bas aussi, il y a les fils leaders, Mundus, fils de ces terroirs. Il va finir aussi par comprendre. Et nous, en tant qu'État, nous sommes là à bras ouverts pour attendre sa reddition chez nous.
Il y a lieu de rappeler que depuis le 17 janvier 2020, le jour de l'assassinat du chef Mukimbo, tous les 4 chefs coutumiers du secteur sud, Muhuya, Mukimbo, Mulongo et Ngoy, vivent dans le centre de Nyunzu, loin des chefs-lieux de leurs groupements respectifs. De retour de Nyunzu, François Djabemibé, Radio Kapi.
Rendons-nous à Mbandaka où l'on signale un sit-in hier mardi des enseignants et étudiants détenteurs des procurations de leurs parents. Ils ont tous manifesté leur mécontentement en brûlant des pneus devant le bureau de la Caritas Développement de Mbandaka Bikoro. Ils réclamaient toujours leur salaire des mois de janvier et février non payés jusque-là. Mais la Caritas explique la situation par le rachat de la BCDC par Equity Bank et la longue procédure de remise et reprise. Récit de Paul-Richard Malingela.
Enseignants et étudiants payés par la Caritas, 100 environ, ont manifesté leur colère ce mardi à Mbandaka. Plusieurs étudiants se sont vus chasser des cours, faute d'avoir payé notamment les frais d'enrôlement. Pendant ce temps, certains enseignants venus de l'intérieur se disent bloqués à Mbandaka, alors qu'ils venaient simplement chercher leur salaire, ont-ils dit, profitant de la période du confinement des écoles. Le représentant des manifestants, Gérard Ntamba, a exprimé leur colère et indignation.
Ils sont presque tous menacés. ISP a chassé, INIMBA a chassé, ISTEM a chassé pour le frais d'enrôlement et d'autres frais connexes. Maintenant que les gens attendent qu'on paye, on ne paye pas. Ils ne disent rien. Comme d'habitude, ils gardent silence. Nous semblons comprendre que les autorités de l'État font sourd oreille. Ils ne réagissent pas en dépit de tout ce que nous faisons comme déclaration, comme mécontentement.
Le responsable de la Caritas Développement reconnaît bien ce désagrément. Mais l'abbé Louis Iyeli a plutôt condamné et jugé barbare les actes posés par ces manifestants. Car ce retard ne vient pas de son institution, mais plutôt du processus de rachat de la BCDC par Equity Bank.
D'après les informations que j'ai à Kinshasa, c'est Equity Bank qui a acheté la BCDC. Nos ordres de virement sont entrés au moment où la remise et reprise des devoirs s'effectue. C'est ce qui bloque un peu l'envoi des fonds jusqu'en Bandaka. Mais les démarches sont toujours en cours.
Faute de solution jusque-là, les enseignants sollicitent l'implication des autorités nationales en vue de rentrer rapidement dans leurs droits. Bandaka, Paul Chamalenge, la radio Okapi.
Au Kasaï central, le thème du mois en rapport avec les activités de la femme est le leadership féminin d'excellence pour le Kasaï central égalitaire et numérisé dans le contexte de COVID-19. En attendant le lancement prochain des activités réservées à la femme par le gouverneur de province ad intérim, la coordinatrice de l'ONG FMDK exhorte la femme centre kasaïenne à s'adapter à l'outil informatique car c'est la seule voie qui peut lui ouvrir les horizons pour l'accès à la parité. Nathalie Kambala le dit au micro d'André Kambala.
Que ce soit en politique, dans l'administration publique, dans le domaine privé, professionnel, économique, les femmes ont fait preuve de grandes capacités pour assurer de façon responsable de fonctions leur confiées. Malheureusement, beaucoup d'autres font face à l'analphabétisme et à d'autres pesanteurs d'ordre culturel. À titre illustratif, pendant cette période de la COVID-19 qui cadre même avec notre thème de l'année, pour n'avoir pas maîtrisé l'outil informatique, la plupart des femmes ne savent pas s'adapter aux nouvelles réalités du point de vue professionnel. Actuellement, pour avoir un travail, l'informatique fait partie des exigences. Aujourd'hui, nous suivons des formations en ligne. Au même moment, nous pouvons faire beaucoup d'activités. Ici, ce mois de mars nous aide à inviter toutes les femmes à prendre conscience de cette triste réalité aux conséquences incalculables. Elles doivent se battre pour être formées et s'auto-former pour être compétitives à ce 21e siècle. La femme est la première responsable du changement de sa condition, bien que d'autres instances sont aussi concernés.
Et puis à Bukavu, il clôture hier mardi des travaux des plaidoyers sur les incidents liés à l'insécurité des femmes accusées de sorcellerie. Cette activité organisée par l'Association des femmes des médias, AFEM, s'inscrit dans le cadre du projet Appui au réseau des femmes pour diriger la prévention des conflits en RDC. Ces travaux des deux jours ont permis aux différentes parties de relever les quelques cas d'accusation de sorcellerie dans leur milieu, leurs causes, conséquences, avant de formuler des recommandations. Le point avec Rachel Kessembangou.
L'Association des femmes des médias réfléchit sur l'origine des incidents qui accusent souvent les femmes rurales des sorcières. C'est ce qui justifie l'atelier de plaidoyer sur cette question. Julienne Basséqué, coordonnatrice de AFEM.
Nous avons convoqué cet atelier parce que cela se révélait un nouveau drame au niveau de la province du Sud-Kivu. Et avec tout ce que cela engendre comme conséquence, on a estimé nécessaire que nous puissions mobiliser les différentes forces des divers secteurs pour adresser cette question épineuse afin de la stopper.
AFEM associe à ce travaux les députés provinciaux, la police, les leaders communautaires, la société civile ainsi que le ministère provincial de l'Intérieur. Pour les députés provinciaux, c'est une occasion de renouveler leur engagement dans la vulgarisation de textes liés à cette problématique. Madame Kinja Béatrice, députée provinciale du Sud Kivu.
Aujourd'hui, nous nous engageons fermement, surtout nous élus du peuple, de penser à un édit qui doit vraiment éradiquer les phénomènes des femmes sorcières. Même les édits qui existent, nous devons encore faire les suivis pour que ces édits puissent être appliqués.
Un acte d'engagement a été signé pour la protection de la femme souvent accusée des sorcières, surtout en milieu rural au Sud Kivu. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Au Maniema, distribution en début de la semaine des cannes blanches aux personnes aveugles et malvoyantes, dont du chef de l'État. Au cours de cette cérémonie, il y a eu aussi remise des pagnes du 3 décembre 2020 et kits de protection contre le coronavirus auprès des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. C'est le gouverneur ad intérim qui a présidé la dite cérémonie en présence d'une délégation du ministère délégué en charge des personnes vivant avec handicap. Florence Kizalunga a pris part à la cérémonie, elle nous signe ce reportage.
La cérémonie de remise de ce don du chef de l'État a été saluée par la division provinciale des affaires sociales. Son chef de division demande à tout le monde de mettre au centre de son activité la situation de la personne vivant avec handicap, Luzo Kaferuzi.
Cette journée nous interpelle tous, chacun à ce qui les concerne, de mettre en priorité l'encadrement des personnes vivant avec handicap comme un cheval de bataille dans toutes ses actions, car le les Maniema jusqu'aujourd'hui ne compte qu'une seule école pour les aveugles qui fonctionne difficilement.
Les bénéficiaires demandent au président la promulgation de leur loi. Maître Kanamuli Kita.
En tout cas, nous sommes très ravis et nous disons que, monsieur le président, que ça ne soit pas la dernière fois. Nous lui demandons de faire tout, de demander à nos élus qu'ils puissent terminer au niveau de la chambre haute pour qu'ils puissent aussi promulguer notre loi.
Signalons que le maniement enregistre environ 3500 personnes vivant avec handicap. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Dans la foulée de la distribution des vaccins en Afrique contre le coronavirus avant la RDC, le Ghana, la Côte d'Ivoire ou encore le Nigeria ont reçu les vaccins du dispositif COVAX. Mardi, un avion a également débarqué à Luanda avec à son bord 624 000 doses de vaccins AstraZeneca-Oxford permettant à l'Angola d'entamer la vaccination des membres du personnel de santé. De plus, environ 30 000 doses de vaccins étaient attendues mardi soir en Gambie. Le Sénégal voisin a déjà commencé à vacciner et devrait se recevoir mercredi matin un lot de 324 000 vaccins fournis par COVAX. Au Nigeria, les vaccinations doivent commencer vendredi avec les professions à risque, a déclaré le porte-parole de la présidence nigériane. L'Égypte et le Soudan ont proposé mardi la formation d'une médiation quadripartite dirigée par la République démocratique du Congo pour relancer les négociations sur le barrage que construit l'Éthiopie sur le Nil. Outre l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et les États-Unis feront partie de ce quartet international dont la mission sera d'abriter les pourparlers. Depuis près d'une cette décennie, le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie négocient sans succès les modalités de la gestion et du remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance.
L'invité.
Notre invité est le chef du bureau intérimaire de la MONUSCO à Beni, Boutembo et Lubero. Abdourahman Ganda explique les raisons de l'atterrissage ce mardi d'un hélicoptère de la MONUSCO à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Une situation qui a été à l'origine d'une panique de la population. Il parle également des opérations menées par les FRDC et MONUSCO pour sécuriser la route Beni-Kassindi contre les embuscades des ADF. Il s'entretient avec Martial Papi Moukiba.
Abdourahman Ganda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de bureau intérimaire de la MONUSCO, Beni, Boutembo, Lubero. Confirmez-vous l'atterrissage, c'est mardi avant midi à Oicha, d'un hélicoptère de la MONUSCO?
Oui, nous avons un hélicoptère qui est atterri au stade de Oicha. Il est allé déposer des militaires sud-africains qui sont allés faire une opération de patrouille dans la zone. Donc je le confirme. Le premier message, c'est de rassurer la population. C'est des soldats de casque bleu qui sont allés pour la protection de cette même population. Donc, la panique est arrivée, c'est malheureux. Je voudrais d'ailleurs saisir l'occasion pour expliquer comment cela est arrivé. Vous savez, les FRDC sont en opération. Nous-mêmes, la MONUSCO, depuis le samedi 27, nous avons lancé une opération spécifique pour dominer la route de Beni à Kassindi. Cela nous demande beaucoup de ressources matérielles et humaines. D'une part pour cette opération, mais de l'autre part en soutien aux opérations des FRDC. Donc dans cette zone, nous avons depuis longtemps patrouillé pour protéger la population, je veux dire la zone de Oicha, mais nous transportons les soldats en blindés. Mais tenant compte des opérations dont je vous ai parlé, qui demandent des ressources matérielles et humaines, nos blindés sont en train d'être utilisés ailleurs. Nous avons décidé d'héliporter les hommes, les amener jusqu'à Oicha et ils vont rentrer dans la forêt pour patrouiller. Nous l'avons fait en concertation avec les FRDC et la PNC. Dans notre entendement, c'est nos partenaires FRDC et PNC qui devaient informer l'administration du territoire et la communauté. Malheureusement, eux aussi, ils pensent que c'était à nous de le faire et l'information n'est pas passée. Donc la population étant surprise de voir nos militaires débarquer en hélicoptère, ceux qui n'ont jamais vu, ils ont paniqué et puis voilà, c'est arrivé. Ces gens-là sont allés pour protéger cette même communauté. Voilà, je rassure la communauté et nous avons pris bonne note, nous avons tiré les leçons. Prochainement, nous allons nous atteler à ce que l'information passe de la meilleure façon.
Donc vous confirmez que les FRDC et la PNC étaient au courant?
Affirmatif. FRDC et PNC étaient informés que nous allons patrouiller dans la zone et je répète, c'était une patrouille de routine. Mais c'est simplement le mode de transport des hommes qui a changé. D'habitude, on transporte les hommes par blindés. Mais comme les blindés sont occupés à travailler dans la zone de Kassindi et puis dans les autres zones opérationnelles de FRDC, on a décidé de les transporter par hélicoptère. Les deux partenaires étaient au courant.
Une opération à laquelle les FRDC et la PNC prennent part également, opération de patrouille.
Ils ne prenaient pas part à cette opération de patrouille, c'est une opération de patrouille de routine. Ce genre de patrouille de routine, là, on a l'habitude souvent de le faire seul, on peut le faire seul sans eux, sauf s'ils demandent de venir. Ils sont déjà présents dans la zone, il suffisait de les informer ce qu'on a fait.
Vous avez parlé de la domination par les casques blés de la route Beni-Kassindi pour sécuriser la population. Exactement, depuis quelques jours, il s'observe des embuscades sur cette route-là. À part cette domination, qu'est fait la MONUSCO pour rassurer la population qui emprunte ou qui utilise cet accès routier?
Vous savez, la stratégie de l'ennemi consiste, en réalité, l'objectif c'est de prendre cette route et couper Beni de l'approvisionnement venant de Kassindi. Et peut-être qu'en le faisant, les prix des denrées alimentaires vont augmenter, la population va s'échauffer. Et puis il y aura une révolte. Et en même temps aussi traumatiser la population, d'où les embuscades. Vous savez que même le général des FRDC a été attaqué. Alors nous nous sommes dit, on ne peut pas laisser rester les bras croisés. On va leur empêcher d'atteindre cet objectif, raison pour laquelle depuis samedi, nous y travaillons. Et nous pensons que nous avons pratiquement atteint l'objectif. Ils se sont éloignés. Et je pense que si vous observez, depuis que nous avons commencé, il n'y a pas eu d'embuscade sur cette route. Maintenant, il y a d'autres opérations qui sont larges, du Rwenzori jusqu'à Mauvais. Nous sommes en opération avec les FRDC, mais je ne voudrais pas donner les détails ici.
Les opérations que vous menez sur la route Beni-Kassindi, ce sont des opérations conjointes avec les FRDC?
Oui, il y a un détachement des FRDC avec nous.
Votre message à la population de Beni?
Notre message, c'est que nous demandons à la population de continuer de nous faire confiance ou de nous faire confiance. Nous sommes là pour travailler pour sa sécurisation. Nous allons continuer à le faire. C'est une tâche de longue haleine. C'est ça le problème. Et c'est une guerre asymétrique. Mais nous allons tout faire pour la gagner.
Abdourahmane Ganda, merci.
Je vous remercie.
Nous vous disons merci aussi aux fidèles auditeurs de Radio Okapi pour l'attention soutenue que vous nous avez accordée. Ce journal a été préparé par Élisée Tchikotalin et Rung. Billy Van Loutma vous l'a présenté. L'actualité se poursuit sur www.radiookapi.net.